Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, le rivage d'en face.
Et je me suis aperçu qu'il est énormément utilisé donc dans l'Écriture sainte et par un petit décompte que je me suis prêté, eh bien, je l'ai trouvé au moins 230 fois ce verbe passé avec ses dérivés passant, passage, etc. Alors j'aimerais justement autour de ce mot et dans un récit tout à fait particulier, eh bien, vous entretenir sur quelque chose que vous connaissez bien. C'est un grand événement biblique et on a souvent l'habitude de le lire, mais j'aimerais donner un petit commentaire sur la question et vous allez deviner de quoi il s'agit. Mais je reviens quand même à ce verbe qui exprime l'action naturellement et on parle souvent de passer d'une façon ou d'une autre. Les hommes parlent de passer par l'épreuve ou dans l'épreuve. On passe par l'épreuve. Ces derniers temps, avec la fin de la scolarité, beaucoup de jeunes ont passé des examens. Ça, c'est aussi un aspect des choses. On passe quelquefois de justesse, hein, parce que nous sommes menacés à travers toutes sortes de dangers, toutes sortes de périls. On parle également sur le plan émotionnel ou sur le plan tout simplement de l'état intérieur. Je cite, passer du doute à la foi, de la peur à la sérénité, enfin, passer d'un lieu à un autre, ça s'appelle tout simplement se déplacer ou circuler. Alors pourquoi je dis cela? Parce que ça va être un petit peu la trame de notre réflexion. Et le verbe passer, et tout simplement ce mot passage, prend un sens étonnant, un sens exceptionnel, un sens miraculeux, un sens surnaturel, un sens divin, dans le fameux récit du livre de l'Exode, au chapitre 14, où il est question du passage de la mer Rouge. Voilà, c'est là où je voulais en arriver, donc, dans cette petite introduction. Et nous voyons que ces hommes et ces femmes d'Israël avaient un regard devant, c'était finalement d'atteindre le rivage d'en face. Et ils sont passés par une expérience. Et dans l'histoire biblique, dans l'histoire des hommes liés à Dieu, eh bien, il y a toujours un passage. Un passage, et en ce qui concerne les Hébreux, eh bien, ils sont passés, en quelque sorte, de l'esclavage à la liberté. C'est-à-dire qu'ils ont découvert ce que pouvait être l'affranchissement, mais pas un affranchissement par eux-mêmes, l'affranchissement par la main de Dieu. On pourrait dire également, si l'on veut aller un peu plus loin, ils sont passés de la misère au bien-être, hein, parce qu'ils avaient en perspective les promesses de Dieu qui leur promettait le pays de Canaan, où il était question du lait et du miel. C'est aussi un passage. Ils sont passés également du non-être, hein, excusez-moi de m'exprimer de cette manière, à une véritable identité, parce qu'ils sont devenus le peuple de Dieu, alors qu'ils étaient un peuple qui ne comptait même pas dans l'Empire d'Égypte, c'était des sous-hommes. Ils sont passés de la mort à la vie, parce qu'ils ont pris conscience de leur état, que sans Dieu on ne peut pas vivre. Et on pourrait dire également qu'ils ont passé des ténèbres à la lumière, par le fait même que Dieu leur a donné la connaissance. Ça s'est passé à Sinaï, à travers la médiation d'un grand homme que nous connaissons, il s'agit de Moïse. Et quand j'ai regardé un peu plus près, eh bien, je me suis aperçu que le mot « passer » en latin, c'est « passere », et ça donnait le mot « pas », c'est-à-dire « marcher ». Et avec Dieu, on marche. On ne marche pas n'importe comment, on ne marche pas dans n'importe quelle direction, on marche au pas de Dieu. On marche dans la volonté de Dieu, on marche selon les directives de Dieu, selon les indications de Dieu, et c'est lui qui nous mène toujours sur le rivage d'en face. Et c'est là où il y a la bénédiction. Alors, ceci dit, je voulais simplement l'introduire. Je ne vais pas relire ce long chapitre qui nous relate le passage des Hébreux à travers la mer Rouge, mais on va le prendre au fur et à mesure, et puis tout simplement commenter les versets qui sont là devant nos yeux. Il nous est simplement dit dès l'entrée de ce paragraphe, de ce chapitre, que Moïse, comme finalement nous le savons, Dieu lui a parlé. Il nous est simplement rappelé que l'Éternel parla à Moïse et lui a donné un ordre précis de s'adresser aux enfants d'Israël. Et alors que normalement il devait arriver directement dans la Palestine, en passant par le nord, en contournant finalement eh bien, ce golfe qui là eh bien, juxtapose l'Égypte et puis la Palestine, alors il devait monter vers le nord. Mais il nous est dit que Dieu a changé d'avis, enfin vous l'avez tout simplement cet avis depuis bien longtemps, mais ça a été déroutant pour les Hébreux parce qu'il dit simplement eh bien, qu'il se détourne et qu'il campe eh bien, dans un endroit tout à fait particulier qui s'appelle Migdol, enfin bon, je passe sur eh bien, ces textes, et qu'il campe là. Alors, nous voyons qu'il y a une direction de Dieu, et cette direction, elle est un petit peu dérangeante, un peu désoriente, par le fait même que c'était certainement pas la route que, humainement parlant, ils auraient choisie. Au lieu d'aller finalement vers le nord, eh bien Dieu leur dit, vous allez dans une autre direction. Et Dieu va donner l'explication. Parce qu'il a en vue de sauver le peuple hébreu, mais il a en vue aussi de confondre l'ennemi d'Israël, c'est-à-dire Pharaon et l'Empire d'Égypte. Alors, il met finalement dans la bouche de Pharaon, c'est Dieu qui parle, eh bien, ce que peut penser Pharaon d'une telle situation, de voir près de 2 millions de ses esclaves sortir à main levée d'Égypte et finalement quitter tout simplement au nez et à la barbe de Pharaon et de son armée, et de se diriger tout simplement là pour trouver la liberté, trouver une véritable vie. Alors, c'est Dieu qui parle de cette manière. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays. Et Dieu a justement fait en sorte que c'est de faire croire à Pharaon qu'ils sont là perdus. Au lieu d'aller dans la bonne direction, Dieu volontairement les fait aller dans un autre sens qui fera dire à Pharaon, mais ils sont perdus de toute façon, le désert les enferme. Et ça va donner des idées à Pharaon en disant, mais s'ils sont dans le désert, moi je vais les rattraper. Et là je vais les ramener, et ils vont savoir, comme on dit très souvent, de quel bois je me chauffe. Parce que c'était lui le maître. C'était lui, finalement, eh bien, le roi d'Égypte. Et à ce moment-là, Dieu ajoute, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et à ce moment-là viendra dans son cœur l'idée de les poursuivre. Parce que c'était lui qui les avait laissés partir, parce qu'il ne pouvait plus supporter. Et on comprend qu'après les 10 plaies d'Égypte, Pharaon ne voulait plus entendre parler des Hébreux. Mais toujours est-il qu'il se ravise à ce moment-là, Pharaon, mais c'est dans la volonté de Dieu, en quelque sorte, c'est Dieu qui fait les choses. Alors, Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Voilà le but. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Ils vont écouter la voix de Moïse docilement, et ils vont aller dans une autre direction qui n'était peut-être pas forcément, humainement parlant et logiquement parlant, eh bien, était la direction prévue. Alors à ce moment-là, quand les Hébreux sont partis, et particulièrement dans cette direction, il nous est simplement rappelé dans ce passage qu'on est allé l'annoncer au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Ce n'était pas une fuite. C'est lui qui les avait chassés dans un premier temps. Et ils étaient sortis avec, finalement, à main levée, comme on dit, c'est-à-dire tout simplement, eh bien là, un peuple qui réclamait son affranchissement, comme ça se passe encore aujourd'hui, vous avez vu, hein, dans tous les pays arabes, ça bouge, c'était un petit peu, en quelque sorte, un affranchissement. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il y a quelques jours, il ne voulait plus les voir, c'est lui qui les avait chassés, maintenant il veut les rattraper. Alors, ils vont se culpabiliser, enfin façon de parler, mais ils vont se dire les uns les autres, mais qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Parce que comme c'était un peuple qui était réduit tout simplement à l'esclavage et à la servitude, ils vont se dire, mais qui va faire les travaux? Qui va construire les pyramides? Qui va creuser les canaux? Qui va faire les travaux des champs, etc. Alors, il y a tout un... Mais ça, c'est Dieu qui a mis ça dans le cœur de Pharaon. Il se ravise, en quelque sorte. Alors, Pharaon a attelé son char, nous dit le passage. Il a pris son peuple avec lui. Alors, quand il s'agit de son peuple, ce sont ses serviteurs, et ses militaires et ses soldats. Et il nous a donné même le détail de toute cette armée considérable qui va aller à la suite pour rattraper Israël. Il nous a dit qu'il y avait 600 chars d'élite, tous les chars de l'Égypte. Il y avait là, eh bien, sur les combattants, finalement, des armures, enfin, toutes sortes de choses. Et tout à nouveau, pour la deuxième fois, il nous a dit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël, parce qu'ils étaient sortis à main levée. C'est toujours dans ces versets qui sont devant mes yeux que je tiens tout simplement de lire devant vous. Alors les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, son armée, ses cavaliers, les ont atteints, ont rejoint le peuple d'Israël à un endroit qui s'appelle Pit-Hahiroth, c'est-à-dire vis-à-vis de Bath-Tsefon. Ils sont dans le désert à ce moment-là. Donc ça, c'est la première partie de ce fameux récit, mais on n'a pas encore passé la mer Rouge. Ils viennent de quitter le pays de la servitude, ils se trouvent finalement dans le désert, c'est une situation vraiment inédite. Il y a Pharaon qui court derrière, il est prêt à les rattraper, et il nous est simplement dit dans le verset 10, cette petite phrase qui en dit long, « Pharaon approchait ». Voilà. Et ça, c'est un mot, cette petite expression qui remplit d'effroi, d'horreur, en se préparant à un massacre. Pharaon approchait. Les Hébreux sont démunis d'armes, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de soldats, c'est qu'un peuple d'hommes, de femmes, de vieillards, d'enfants, et aucune possibilité de se défendre. Et nous voyons que Pharaon lui vient avec toute sa troupe, et on pourrait peut-être penser à l'époque, pour l'époque, c'était certainement l'armée la plus forte et la plus puissante de ce temps-là. Alors quand les Hébreux ont vu ce qui se passait, ils ont d'abord vu certainement un immense nuage de poussière en se retournant. Ils n'ont peut-être pas compris au premier abord, mais ils ont vite certainement saisi la signification de ce nuage qui arrivait. Et là, très vite, ils se sont rendus compte que c'était Pharaon qui arrivait avec ses chars et ses chevaux. Alors les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et ça, ça a dû être quelque chose de terrible. Quelque chose d'effroyable, imaginez-vous, les hommes, les femmes, les enfants, en disant on va tous se faire massacrer. Et c'était une multitude, parce que ce n'était pas un petit peuple à l'époque. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, avec une réaction qui est certainement la bonne réaction, puisqu'il nous est dit que après cette frayeur, enfin dans cette frayeur, eh bien ils ont crié à l'Éternel. Alors ils se sont tournés vers Moïse. Et c'est là où commence finalement eh bien, ce passage. Nous pourrions dire ces états intérieurs, ces émotions, tout ce qui peut finalement bousculer et nous bouleverser, nous désorienter, nous en tant qu'hommes. Parce que lorsque nous sommes conscients de ces réalités, c'était une réalité mortelle qui était derrière eux, il ne faut pas l'oublier. Alors ils se sont tournés vers Moïse. Ils ont crié à Dieu, mais ils se sont tournés vers Moïse. Ils ont demandé à Dieu du secours, ils ont tout simplement exprimé leur détresse. Mais à Moïse, ils ne vont pas lui dire la même chose. Ils vont simplement se tourner vers Moïse et ils vont lui faire un reproche mordant, cinglant. Ils vont lui dire, mais n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert. Parce qu'ils identifient Moïse comme le responsable de cette sortie. Ils ont été malheureux pendant 430 ans. Ils sont morts sous la peine, les fardeaux, la maltraitance, le fouet. Et ils avaient pleuré pendant des décennies et des décennies en disant « Seigneur, envoie-nous une délivrance, envoie-nous un libérateur ». Alors le libérateur, il est venu dans la personne de Moïse. Moïse, soutenu par la puissance de Dieu et par la main de Dieu, va les faire sortir. Au moment où ils sont sortis, parce qu'il y a un danger qui les menace, ils vont se retourner à ce moment-là vers Moïse. Et vont lui dire, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as trahis. Pourquoi nous as-tu amenés dans le désert? Si nous devons mourir, eh bien on aurait mieux fait de mourir en Égypte. C'est ça là, le sens de la réflexion qui est faite, qui est là, prononcée à ce moment-là. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que nous mourir dans le désert. Alors que quelque temps auparavant, eh bien, ils avaient dit exactement le contraire. C'est pour montrer que l'homme est très versatile. Voilà. Et la peur, l'effroi, la crainte est là pour modifier finalement tous les comportements et balayer la foi. Et c'est ce que nous rapporte finalement ce texte pour nous montrer que nous avons des convictions, nous n'avons pas. Nous pouvons toujours dire que nous avons des certitudes, mais c'est dans l'épreuve. C'est dans les moments difficiles que nous jugeons de la validité et de la solidité de notre position en Dieu, de notre foi en Dieu. Alors, ils vont dire tout cela. Et Moïse, qui est un homme de l'esprit, un homme d'une grande foi, va répondre au peuple. Il va dire tout simplement ces paroles, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Alors ça, c'est une réponse qui est déconcertante, parce que on s'aperçoit qu'il a affaire eh bien là, à une menace qui est celle de Pharaon, qu'il a aussi à faire face à une, on pourrait dire, à un tumulte et une révolte pleine de panique et de frayeur de son peuple, et il va leur répondre tout simplement, et ne craignez pas, n'ayez pas peur. Vous savez, c'est difficile de raisonner des gens qui sont pris de panique. Terrible la panique, parce que ça vous fait faire des choses qui sont hors de la raison, irraisonnées naturellement. Alors donc, il va leur dire, mais vous restez là où vous êtes, et vous allez voir que ce n'est pas l'homme qui va vous délivrer. Ce n'est pas moi, Moïse, qui va vous délivrer. Mais vous allez bien regarder, et vous allez vite vous apercevoir que la délivrance viendra de Dieu, et à ce moment-là, les Égyptiens que vous voyez, qui vous menacent, qui sont en train de vous poursuivre pour vous détruire ou pour vous ramener en Égypte, eh bien, vous les voyez aujourd'hui, mais demain, vous ne les verrez plus. Il n'y avait qu'une parole de foi qui pouvait animer Moïse. Et un homme qui n'a pas été pris par la panique, parce qu'on ne peut pas parler comme ça quand on est paniqué, c'est sa foi qui fait la différence. Cet homme est un homme de l'esprit, et il reçoit au fond de son cœur, parce que Dieu lui a dit, eh bien maintenant, tu vas détourner le peuple pour qu'il aille comme je veux. Il est convaincu que ce que Dieu lui a dit, eh bien Dieu va le réaliser. Et quel que soit le passage, quelles que soient les difficultés qu'il va falloir traverser, qu'il va falloir surmonter, ce que quand Dieu nous donne, eh bien là une direction, c'est qu'il nous accompagnera. Il nous en donnera les moyens, il nous en donnera la force, il nous donnera tout ce qui est nécessaire pour aller tout simplement jusqu'au bout. Alors, il le dit, et il essaie de convaincre finalement eh bien, le peuple hébreu de bien recevoir cette parole. Vous ne les verrez plus jamais, parce que l'Éternel combattra pour vous, mais vous, en attendant, gardez le silence. Ce qui veut dire que vous restez à votre place. Vous pouvez considérer maintenant, et vous pouvez regarder les Égyptiens dans le brouhaha qu'ils sont en train de mener, un train d'enfer pour vous rendre esclave tout à nouveau, ou pour vous détruire, ou pour vous tuer. Vous les voyez, mais que votre foi soit plus forte que votre peur. Ou que votre foi, eh bien là, triomphe de votre peur, parce que je vous demande de ne pas bouger, je vous demande de regarder et de bien considérer que cette délivrance, elle va venir de Dieu et que le danger va disparaître. D'une façon ou d'une autre, Dieu a une solution, parce que c'est Dieu qui va combattre pour vous. Mais en attendant, gardez le silence. Parce que plus on parle, plus on s'agite, plus on est en train de crier d'une manière ou d'une autre, eh bien, finalement, quelque part, plus on se perturbe et on perturbe les autres. Voilà les conseils qui sont donnés à ce moment-là, et ça vaut aussi pour nous-mêmes lorsque nous sommes dans des moments, des passages difficiles, lorsque nous avons à traverser des épreuves, lorsque nous sommes confrontés avec des périls et des dangers. Ça, c'est une attitude constante. Hein. C'est celle que nous indique la parole de Dieu pour que nous puissions eh bien, vraiment voir Dieu se manifester. Quelquefois, nous prions et nous disons, mais Seigneur, montre-toi. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je te prie. Mais une chose qui est certaine, c'est que cela fait écho à une parole qui viendra beaucoup plus tard par un grand prophète de Dieu qui s'appelle Ésaïe. Quand il dira ceci, dans son chapitre 15 et au verset 30, il dira ceci, ou plutôt au chapitre 30 et verset 15, en remettant l'endroit, il dit ceci, mais c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et ça vaut aussi, eh bien, pour notre temps, ça vaut aussi pour nous. Alors, à ce moment-là, tout à nouveau, Dieu a parlé à Moïse, et il lui dit, mais pourquoi ces cris ? Il semblerait que Dieu soit étonné du comportement, finalement, eh bien, des enfants d'Israël. Alors, va leur parler, et maintenant qu'ils marchent. Parce que c'est ça, la question. Quand je vous ai parlé de ce mot « passé », quand je vous ai parlé de ce mot également de « passage », qu'ils marchent, et nous sommes appelés à marcher. C'est pas de rester statique, c'est pas de dire « eh bien, on va attendre », non. C'est de continuer à marcher, sous le regard de Dieu, avec la force que Dieu nous donne, et en ayant les yeux fixés, et bien sûr ce qu'il va faire. Alors, à ce moment-là, Moïse va recevoir un ordre, tout à nouveau un autre ordre de Dieu. Il va lui dire, tu vas lever ton bâton, tu vas l'étendre sur la mer. Il est question de la mer Rouge à ce moment-là. et tu vas la fendre. Fends-la, lui dit-il, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Ça paraît inouï, ça paraît fou. C'est comme si on se mettait sur la plage à Saint-Nazaire et que nous essayions de franchir pour aller jusqu'à Saint-Brévin. Hein. Imaginez-vous, si un bateau passe par là, il va tomber dans le trou. Pendant le... Voilà. Mais on peut s'imaginer, hein. Et ça devait représenter quelque chose d'assez fabuleux. Bien que ce ne soit pas une fable, mais quelque chose d'assez étonnant, cela. Et pourquoi ça nous est rappelé encore des siècles et des siècles après? Parce que derrière, il y a quelque chose qui va au-delà du symbole. C'est que Dieu est tout-puissant. C'est que Dieu est capable de faire des choses que les hommes ne pourront même pas imaginer, au-delà de ce qu'ils peuvent penser, et même là de ce qu'ils peuvent demander. Alors, ils entreront à pied sec dans la mer. Et moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Troisième fois que cela nous est dit. Pour qu'ils entrent après eux. Parce que le but, c'est que les Hébreux, eux, passent dans la mer et arrivent sur le rivage d'en face et soient préservés, et de régler en même temps le compte de Pharaon et de son armée, puisqu'ils poursuivent. Alors, on va voir comment ça va se passer d'ici quelques instants. Et ils feront éclater ma gloire, et encore à nouveau, à ce moment-là, Pharaon et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà comment Dieu prouve les choses, par sa puissance, par des faits miraculeux, surnaturels, des faits extraordinaires, et je ferai éclater ma gloire. On continue. Il nous est dit un peu plus loin que l'ange de l'Éternel, alors l'ange de l'Éternel, je précise tout à nouveau, c'est une anticipation de la venue de Jésus. Voilà. Dans la Bible, quand vous trouvez ce terme, l'ange de l'Éternel, eh bien, c'est en quelque sorte cette anticipation de celui qui allait venir. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Il était devant et derrière. Ça nous rappelle ce que nous dit le livre de l'Apocalypse en parlant de Jésus. Je suis le premier et le dernier, je suis le commencement et la fin, je suis l'alpha et l'oméga. Nous le trouvons dans le début de la Bible, nous le trouvons partout et nous le trouvons à la fin de la Bible. Ça, c'est bien véritablement, eh bien, en quelque sorte, le titre même, eh bien, de Christ. Alors, elle se plaça, il nous est dit qu'il y avait une nuée, une colonne et une nuée. Il nous est dit que cette nuée se plaça entre le camp des Égyptiens et d'Israël, comme s'il y avait une séparation, qui faisait que les uns progressaient naturellement dans l'avant, et puis les autres qui essayaient de rattraper, c'est comme s'il y avait comme une montagne, comme une barrière, comme une muraille qui les séparait. Et ils pouvaient toujours... ça s'est passé pendant un temps. Et cette nuée était ténébreuse d'un côté, et elle était lumière de l'autre. Elle éclairait la nuit devant. Ça, c'est tout à fait encore la typification de Christ. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et il y a comme s'il y avait une séparation. C'est un passage des ténèbres à la lumière. Et nous voyons que, eh bien, les choses nous sont présentées de cette manière. Alors, ténébreuse d'un côté, du côté d'Égypte, et lumineuse de l'autre côté, parce que c'est Dieu qui éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Je pense que dans toute la stratégie des savants et des savants militaires de Pharaon, ils devaient se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons des chars, nous avons une armée, nous avons de la puissance, nous avons des chevaux, nous avons tout ce qu'il faut, et on n'arrive pas à avancer. Alors là, il n'en était qu'au début, parce qu'après, ça va savoir que ça n'avance plus du tout. Hein. Parce qu'il va y avoir tout un chaos qui va se produire, et ça, c'est la main de Dieu. Il y a ses élus, il y a ceux qui lui font confiance, et puis il y a les ennemis aussi de Dieu. Et donc, en même temps, les ennemis de ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Moïse va faire ce que Dieu lui dit, il étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla, nous dit le texte, c'est une explication, avec impétuosité toute la nuit. Alors on appelle ça de l'historico-critique, mais c'est une réalité quand même, parce que Dieu est capable de jouer avec la nature, de maîtriser la nature, et de modifier, d'une manière ou d'une autre, en puissance, eh bien tout ce qu'il a créé. Donc il est question de ce vent, et nous n'avons pas à douter finalement de l'authenticité de la chose. Alors, ce vent a soufflé pendant toutes ces heures de la nuit, et il mit la mer à sec. Imaginez-vous ce que ça peut être. On a du mal. Surtout pour faire passer 2 millions de personnes de front. Alors souvent, quand on regarde les fresques cinématographiques du passage de la mer Rouge, on voit un couloir. Mais d'après toute vraisemblance... et les explications des commentateurs les plus avisés ou les plus autorisés, on s'aperçoit que ce n'était pas un couloir, hein. C'était beaucoup plus large que ça. Passer en l'espace d'une nuit 2 millions de personnes, ce n'était pas un couloir de métro, hein. C'est quelque chose de quand même beaucoup plus grand. Et pour montrer que Dieu est en train de démontrer, de faire la preuve, finalement, qu'il est Dieu, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et là, ça a dû leur faire un autre effet. Parce qu'ils étaient spectateurs, et c'était pour eux que les choses se faisaient. Parce que leur crainte était passée à ce moment-là. Et imaginez-vous qu'à partir du moment où ils ont vu Moïse lever son bâton, et ce vent arriver, et la mer refouler de droite et de gauche, et pouvoir mettre déjà le pas, passer, mettre le pas dans le fond de la mer, ça devait être quand même assez... Enfin, je ne sais pas s'il y a des mots pour décrire ça, parce que quand ils ont commencé à progresser dans ce passage, ils ont dû voir à une hauteur considérable eh bien, les flots qui étaient refoulés. Et c'était inouï. Est-ce que ce n'était pas un rêve? Peut-être ont-ils pensé qu'ils rêvaient à ce moment-là. Oui, parce que, difficile, hein, de pouvoir... Mais ils ne rêvaient pas, c'était vraiment la réalité. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et il nous est simplement ajouté que les Égyptiens les poursuivirent, et les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. Eh oui. Vous savez, il fallait de la foi pour passer. Et il fallait de la foi pour entrer. Mais comment allait-il s'en sortir? Alors les uns vont s'en sortir de ce passage. Passage, ça donnait aussi le mot Pâques. On en parlera, on peut en parler un petit peu plus loin dans le texte. Et les autres vont être condamnés. Les uns seront sauvés, les autres seront condamnés. Ça, c'est quelque chose, hein. Ils vont être châtiés, les Égyptiens. Alors, ils entrèrent après, en pensant qu'ils étaient suffisamment forts, qu'ils étaient suffisamment puissants pour pouvoir ramener ce peuple. Mais tout le monde a dû être certainement étonné dans un camp comme dans l'autre. Et à la veille du matin, et vous savez que c'est souvent à la veille du matin que les choses se passent. Vous connaissez l'histoire de la tempête sur le lac? À la veille du matin, c'est là où Jésus est venu vers les disciples. Et il leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est là où il a calmé la tempête. Et là, c'est encore à la veille du matin. L'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et il mit en déroute le camp des Égyptiens. Et comment Dieu va s'y prendre? Il nous est dit qu'il y a eu un tel chaos, une telle confusion. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Imaginez-vous un peu le tohu-bohu qui s'est passé. Remarquez, on ne va pas au fond de la mer avec des chars, avec des chariots, enfin toutes sortes de choses. Je pense que les Hébreux étaient beaucoup plus appropriés pour pouvoir passer à pied. Et les autres, avec tout leur armement, avec leurs chevaux et tout ça, mais ils se sont empêtrés, il devait y avoir des pierres, il devait y avoir toutes sortes de choses. Ils ont dû se télescoper les uns contre les autres. Et comment faire, hein? Ça faisait un bouchon en quelque sorte, hein? C'est un terme que l'on connaît bien aujourd'hui, hein? Et la panique, hein? Pourtant c'était des hommes de guerre, hein? Et là ils se sont dit les uns les autres, hein? Mais fuyons devant Israël. C'est là où ils commencent à prendre peur. Il y avait déjà eu le coup de semonce avec les 10 plaies, enfin c'était pas n'importe quoi, les 10 plaies d'Égypte. Et là ça devient véritablement pathétique, ça devient dramatique pour l'Égypte. Et ils vont le dire, mais nous avons affaire à un peuple. Nous avions ce peuple au milieu de nous pendant 430 ans, et nous ne nous ayons pas aperçu qu'il avait un Dieu, qu'il avait un Dieu puissant, et que c'était un peuple qui avait la foi dans ce Dieu puissant. Alors ils vont dire, mais fuyons. Mais comment faire demi-tour? C'est pas facile, hein, à ce moment-là, hein? Quand on est parti pour suivre, d'accord? Et après, à revenir en arrière. Et surtout qu'ils devaient être déjà bien engagés, alors que probablement les premières cohortes des Hébreux étaient déjà arrivées d'autre côté, hein. Alors, là, il va comprendre. C'est ça justement ce que Dieu voulait faire comprendre à Pharaon et à l'Empire d'Égypte. Car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Ils sont superstitieux, les Égyptiens. Toute leur religion, toute leur mythologie, c'est une religion et c'est une mythologie de superstition, de magie, d'idolâtrie. Et là, ils vont dire, mais c'est pas possible. Le Dieu qui est avec eux, eh bien, nos esclaves, est encore plus fort que nous. Voilà comment ça s'est terminé. L'Éternel dit à Moïse, tu étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, seulement à l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui conduit, ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas l'interprétation ou tout simplement l'improvisation de Moïse. Moïse, on le voit, c'est un homme qui reste calme, c'est un homme qui reste dans la foi, qui a confiance en Dieu. Il attend que Dieu lui dise une chose et qu'il lui dise encore une autre chose. Et il agit d'une façon ou d'une autre. Et au moment où c'est... Parce que c'est Dieu le chef de guerre. C'est lui qui est en train de mener les opérations. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, mais tu vas faire ceci. Et là, tu vas voir, les eaux vont revenir. On peut imaginer que tous les Hébreux étaient passés de l'autre côté. Parce que c'était pas... Il n'y avait pas un quota de perte, hein. C'était tous les Hébreux de l'autre côté, c'était son peuple. C'était son peuple. Et toutes les eaux se sont abattues sur les chars et sur leurs cavaliers. C'est ce que Moïse a fait. Et vers le matin, la mer avait repris son impétuosité, comme si rien n'était passé. Mais il y avait la séparation. Il y avait les ennemis de l'autre côté repoussés, on va voir dans quel état ils sont. Et puis il y avait le peuple de la foi, le peuple des Hébreux, le peuple d'Israël, qui était sain et sauf. Alors imaginez-vous que ça devait être quelque chose d'assez étonnant pour eux, hein, de dire, mais comment on a... Ils ont dû certainement se pincer en disant, mais est-ce que nous rêvons ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui pouvait rivaliser dans une telle confrontation? Et à ce moment-là, les Égyptiens, nous dit le texte, dès qu'ils ont vu les eaux se rabattre tout à nouveau sur eux, eh bien, ils ont fait au moins la tentative de s'échapper. Mais l'Éternel, ajoute le récit, précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Ça devait être quelque chose de terrible. Un carnage. Et qui pouvait dire? Qui pouvait s'en prendre à qui? Moïse sans armes, un peuple sans armes, ça venait d'en haut, hein. Ça ne pouvait pas être autrement. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il nous est dit qu'il n'en échappa pas un seul. Je ne sais pas si Pharaon, lui, comment il a fait les choses, parce qu'il a envoyé peut-être ses troupes devant. Hein, c'est possible. Mais toujours est-il que c'était un véritable désastre. C'était une débandade. C'était la débâcle, nous pourrions dire. Non pas par un fait militaire, un fait d'armes, mais tout simplement par un fait de la nature. Et derrière la nature, il y a Dieu. Il y avait Dieu qui était en train de faire les choses. Et vous savez, encore aujourd'hui, je dis bien que les hommes tremblent encore devant la nature. On entend le bruit du canon, il y a une puissance militaire dans notre monde, toutes sortes de choses redoutables et terrifiantes qui donnent la mort et le feu, qui donnent la mort par le feu. Mais il y a une chose devant les hommes, devant lesquelles les hommes sont impuissants, devant les nations, enfin, dont les nations sont impuissantes, même les plus grands stratèges, eh bien, reculent, c'est la nature. Là, on ne peut rien faire. Que ce soit un tremblement de terre, que ce soit un tsunami, ou tout ce que voudrait. Les hommes reculent à ce moment-là. On n'a pas les armes pour lutter. On n'a pas la force pour lutter devant cela. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans la circonstance. Personne n'échappa, mais les enfants d'Israël marchèrent à sec. C'est bien confirmé, au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Pour bien nous montrer que eux, ils sont passés, ils ont traversé l'épreuve. Ils sont allés finalement, eh bien nous pourrions dire, de la mort dans laquelle ils sortaient pour aller vers la vie. Ils sont passés des ténèbres de l'Égypte à la lumière qui les attendait de l'autre côté, sur l'autre rive, en quelque sorte. Et j'aime bien ce petit verset sur lequel nous allons terminer simplement. Il nous est dit qu'en ce jour, jour mémorable, jour qui s'inscrit dans l'éternité, on pourrait dire, parce que on en parlera encore au ciel, hein, je pense. Ça a été consigné finalement dans notre Bible. Oh, les moqueurs et les sceptiques diront toujours, mais tout ça c'est de la légende. Non, non, moi je crois que ça nous a été donné parce qu'il y a une réalité d'histoire, une réalité historique. Mais derrière, on ne va pas s'arrêter seulement à cette réalité historique. Et je crois qu'il y a un formidable enseignement pour nourrir notre espérance, notre foi, construire notre vie spirituelle, pour nous dire que le Dieu en qui nous avons mis notre confiance ne nous décevra jamais. Et ne nous trahira jamais, parce que nous savons que ce qu'il dit, c'est la vérité, et ce qu'il dit, il l'accomplit. C'est ça la grande différence. Et ça, c'est important. Et ce fameux verset sur lequel j'aimerais dire quelques mots encore, il nous est dit qu'en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. C'est lui. Il l'avait déjà fait pour les faire sortir. Maintenant, il fallait passer par cette épreuve de cette mer qui barrait la route, qui faisait finalement, il y a là, eh bien, une impossibilité, parce que qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y avait d'un côté le désert, il y avait la mer de l'autre. Soit on mourait de soif, finalement dans le désert, ou alors on se noyait tout simplement dans cette mer rouge, tout simplement. Et cette petite précision, à travers simplement cette ligne, Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Pour vous montrer, quand ils se sont retournés au petit matin, quand la lumière est revenue, tout avait repris, finalement, comme si rien n'était. La mer avait retrouvé son impétuosité, avait retrouvé son mouvement. Le soleil, certainement, était au zénith. Et quand ils ont regardé autour d'eux, ils se sont dit, mais où sont nos ennemis? Où sont nos adversaires? Et vous savez, je crois que c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Parce que si nous voulons croire en le Seigneur, si nous voulons véritablement suivre Dieu, nous aurons des ennemis. Nous aurons des adversaires. Et comme le dit un passage d'un psaume, que le méchant disparaît. Il creuse une fosse pour nous prendre, pour faire tomber les enfants de Dieu, pour faire tomber ceux qui ont la foi, et c'est lui qui tombe dedans. Et nous nous retournons et nous disons, mais où est sa demeure? Où est-il? Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de sa délivrance. Ça, c'est quelque chose de formidable. Nous l'expérimentons dans ce grand message que l'on appelle la guérison divine. Vous rencontrerez, et nous pouvons rencontrer des centaines et des milliers de gens qui disent, moi, j'étais malade. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis bien, pourtant il m'a redonné la santé. Voilà. Où est l'ennemi à ce moment-là? Devant peut-être des maladies qui sont des maladies irrémédiables. Et puis dans d'autres situations, où que nous avons vécu, dans des tourments, dans toutes sortes de choses, où Dieu fait disparaître nos ennemis. Toutes ces choses qui sont quelquefois dans notre tête et qui nous perturbent à cause de nos pensées, à cause de toutes sortes de choses, la délivrance, elle vient du Seigneur. Il est capable de nous délivrer de ces Égyptiens qui nous persécutent. C'est une belle expérience que nous faisons. Quelquefois, eh bien, l'ennemi, l'Égyptien, excusez-moi, c'est l'ennemi spirituel que je suis en train de parler, et là, pour essayer de nous troubler, essayer de nous faire trembler, de nous culpabiliser, et à un moment donné, eh bien, il nous fait passer, il nous fait traverser. Et on se dit, mais où est-il? On retrouve la paix, on retrouve la sérénité. Alors, Israël a vu, sur le rivage, les Égyptiens qui étaient morts. Le mal était terminé. La peur était finie. La poursuite, eh bien, il n'y avait plus rien. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et conséquence, c'est que le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Voilà. Alors, est-ce qu'il nous faut ce genre de choses pour croire en Dieu? Pour mieux croire avant? Enfin, je pense que, quelque part, Dieu nous aide et vient à notre secours. Quand il voit son peuple fragile, son peuple menacé, son peuple poussé aux extrémités, dans des situations inextrémistes, eh bien à ce moment-là, moi je crois qu'à ce moment-là, eh bien Dieu nous donne véritablement, il nous envoie un libérateur, comme ça s'est passé pour Moïse. Et heureusement que Moïse a obéi. Heureusement que Moïse, eh bien, a fait ce que Dieu lui a demandé. Et conclusion, c'est qu'il y a eu de la crainte. Alors cette crainte, ce n'est pas la peur. C'est le respect de Dieu. Et ce respect de Dieu nous amène à faire encore plus confiance à Dieu. On l'a vu dans notre vie. Et aujourd'hui, eh bien, je pense qu'après des années, on est encore, excusez-moi entre guillemets, mais encore plus confiant que nous l'étions peut-être dans les premiers pas que nous faisions dans la foi et dans la vie spirituelle. Eh bien, c'est pour ça. Et ça, je vois que ça marquait les esprits, ça marquait les générations, ça marquait les peuples et les nations, ça marquait tous les croyants et les chrétiens de tous les temps, cette histoire, cette fameuse histoire de passer la mer rouge. Alors peut-être que Dieu nous appelle à passer une mer rouge qui est devant nous. C'est inimaginable, et c'est peut-être, humainement parlant et naturellement parlant, impossible pour nous. Mais c'est lui qui ouvre la voie, c'est lui qui marche devant nous. Il marche devant, il marche derrière, il nous dit « tu peux y aller, fais-moi confiance, tu arriveras sur le rivage d'en face, parce que c'est ça le but. Hein. » Même devant tout ce qu'il peut y avoir comme impossibilité, c'est Dieu qui trace la voie. Alors, tout simplement pour nous encourager à lui faire confiance. Et j'aime bien cette parole que Jésus laissera dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, si je me souviens, il est dit ceci, « Croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi, et que votre cœur ne se trouble point. » Alors nous avons besoin, à travers ce simple texte, bien de nous fortifier, de nous encourager, que cette parole nous exhorte à dire « Seigneur, il y a peut-être une mer rouge quelle que soit la nature de ce qui barre ma route aujourd'hui, mais quelle que soit finalement la situation, eh bien Seigneur, je te fais confiance et je veux garder le silence, je veux rester là, sur place, enfin en place, je veux marcher avec toi, et c'est toi qui vas me conduire finalement vers le but désiré, là où tu veux me conduire. Quand ils ont été de l'autre côté, c'était déjà encore une nouvelle étape. Ils se dirigeaient après, finalement, eh bien, vers ce que Dieu leur avait préparé. Ils ne vont pas y arriver tout de suite. Ils vont errer pendant 2 ans dans le désert. Ça va être une école. C'est là où ils vont recevoir les 10 commandements. C'est là où ils vont fêter la première Pâque. Passer. Passage. C'est là où ils vont vivre toutes sortes d'expériences. Et puis au moment de rentrer dans le pays de Canaan, ils vont dire, on ne veut plus y rentrer. On préfère retourner en Égypte. C'est viscéral chez l'homme. Il est malheureux. Il est terriblement perturbé par sa misère et tout cela. Mais néanmoins, il veut se remettre encore sous le joug de la misère. Ils finiront par y rentrer dans ce pays de Canaan. Ouais. Ils passeront le Jourdain à ce moment-là. Ce ne sera pas la mer Rouge, ce sera le Jourdain. Et Jourdain, ça veut dire fleuve de mort. Mais ils trouveront la vie de l'autre côté. Ils abattront Jéricho. Ils rencontreront finalement des peuples qu'ils vont battre, qu'ils vont conquérir des territoires. Jusqu'au jour où, eh bien là, ça sera une véritable nation. Mais que c'est difficile de marcher. Que c'est difficile de faire confiance à Dieu. Et pourtant, ça se fera. Alors que Dieu nous bénisse. Parce que tout ça, ce sont des histoires qui nous sont données dans la Bible. Mais comme le dit l'apôtre Paul, dans je ne sais plus quel épître, peu importe, mais ces choses ont été écrites pour notre instruction. Oui, c'est pas pour rien. Pour que nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, eh bien, nous puissions nous inspirer de la parole de Dieu pour qu'elle grandisse, pour qu'elle fasse et qu'elle développe notre foi en disant, bien, Seigneur, tu étais le Dieu d'hier avec des miracles, tu es encore le Dieu d'aujourd'hui avec les mêmes miracles. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à me reposer sur toi. On va prier maintenant quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que c'est vrai, cette expression de passé, eh bien, nous montre, Père éternel, que même dans l'étymologie, dans le sens même du mot, il y a le mot « pas ». Et pour nous, le mot « pas », c'est marcher. Mais pas marcher n'importe comment, pas marcher n'importe où, dans n'importe quelle direction. C'est marcher avec toi. C'est marcher à ton pas. C'est marcher, Seigneur, en te faisant confiance. Seigneur, nous voulons te dire encore une fois de plus, augmente-nous notre foi. Fais-nous grandir, Seigneur, dans notre foi. Nous te le demandons, Seigneur, parce que comment pouvons-nous être délivrés de nos ennemis? Comment pouvons-nous passer nos mers rouges? Comment pouvons-nous eh bien, surmonter, en effet, Seigneur, les difficultés, les montagnes, les murailles, Seigneur, et puis toutes ces choses de l'impossible? Alors, Seigneur, tout cela devient véritablement réalisable lorsque nous te mettons devant nous, lorsque nous t'invitons, Seigneur, à passer devant nous, à marcher devant nous, à nous précéder en un mot. Et ainsi, Seigneur, c'est toi qui nous ouvre la route. Seigneur, je te demande de nous visiter les uns et les autres, de bénir, en effet, Seigneur, ceux qui entendent ce message, et qu'ainsi, Seigneur, ils puissent véritablement eh bien, regarder à toi, te faire confiance, marcher à ta lumière, s'inspirer de ta parole et de tes promesses, parce que tu ne manqueras jamais de nous conduire au but. Et nous te louons et nous te remercions. Oui, Seigneur, merci, parce que tu es celui qui nous fait passer, eh bien, victorieusement, toutes nos mers rouges, et tu laisses nos ennemis, Seigneur, sur le rivage, derrière notre dos. Oui, Seigneur, pour qu'ils ne puissent plus nous atteindre, pour qu'ils ne puissent plus nous vaincre, et que nous ne soyons plus jamais des esclaves, mais que nous devenions vraiment des hommes libres par la foi en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen.
Amen.